Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour amis auditeurs, nous poursuivons notre étude sur les prophètes et nous en sommes à la sixième leçon, celle qui concerne les dates du 31 janvier au 6 février, la semaine du 31 janvier au 6 février. Et le titre de cette leçon, c'est justement « Tester les prophètes ». Tester les prophètes. Voici un verset à mémoriser. Ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. C'est tiré de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. Les questions clés de cette semaine, comment Dieu communiquait-il avec ses prophètes? Comment, selon la Bible, vérifier l'authenticité d'un prophète? Qu'est-ce qu'une prophétie conditionnelle? Un prophète est-il infaillible? Pourquoi croyons-nous que les visions et les rêves prophétiques d'Ellen White venaient de Dieu? Selon la croyance fondamentale numéro 17 de notre Église, la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'Église du reste et s'est manifesté dans le ministère d'Ellen White. Les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, directive, instruction et répréhension. Il stipule que la Bible est le critère auquel il convient de soumettre tout enseignement et toute expérience. Là, il s'agit d'un texte tiré du manuel d'Église, ce que croient les adventistes. Bien que Madame White ne se soit jamais considérée comme une prophétesse, l'Église l'a reconnue comme telle. En 1905, elle écrivait « D'autres m'ont appelé prophétesse, mais je n'ai jamais prétendu à ce titre. Je n'ai pas cru de mon devoir de me désigner ainsi. » C'est tiré du livre « Message choisi ». Eh bien, cette semaine, nous allons examiner plus particulièrement ce don prophétique d'Ellen White. Commençons avec le dimanche 1er février 2009 et cette journée s'intitule « Rêve et vision ». Et nous avons un premier texte qui nous est proposé, tiré du livre du prophète Joël, chapitre 3 et verset 1er. « Après cela, je répandrai mon souffle sur tous. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. » Nous allons lire maintenant comment Dieu communiquait avec ceux qu'il appelait à la fonction de prophète. Et là, nous avons quelques textes que nous allons vous lire. Tout d'abord, un premier qui se trouve au 15e chapitre de la Genèse, chapitre 15 et verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Un autre texte tiré du livre des Nombres, chapitre 12, les versets 6 à 8. Il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. » Et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et un autre texte pour cette journée que nous trouvons dans le livre du prophète Daniel, chapitre 7 et le verset 1er. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit, pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et en raconta les points principaux. Les Écritures nous apprennent que Dieu se servait principalement de rêves et de visions pour communiquer avec ses messagers. les rêves prophétiques ont joué un rôle important du temps des patriarches. Au cours du ministère de Daniel et dans les récits concernant la naissance de Jésus, il est fréquemment fait mention de visions dans les écrits des prophètes. Au cours des 70 années de son ministère, Ellen White a eu environ 2000 visions et rêves prophétiques. Voici ce qu'elle dit dans le livre « Messages choisis ». Parfois, je suis transporté loin dans l'avenir et je vois ce qui doit arriver. D'autres fois, des choses appartenant au passé me sont montrées. Immédiatement après la vision, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai vu. Les choses ne deviennent claires pour moi qu'au moment où je me mets à écrire. Alors le tableau se dresse devant moi, tel que je l'avais vu en vision, et j'écris avec facilité. Elle a eu souvent des visions en présence d'autres personnes qui ont alors pu observer chez elle certains phénomènes physiques. Elle ne respirait pas. Elle avait une force surnaturelle. Personne ne pouvait faire bouger ses membres. Elle n'avait plus conscience de son environnement. Des adventistes comme des non-adventistes ont témoigné du caractère surnaturel de ces visions. À la session de la Conférence générale en 1893, J. N. Loughborough a déclaré « J'ai eu l'occasion d'observer Madame Ellen White en vision une cinquantaine de fois. Elle a été examinée par d'excellents médecins au moment de ses visions et nous avons d'eux des témoignages déclarant que ce phénomène dépasse leur compréhension. » Que penser des écrits d'Ellen White? Quelle influence ont-ils sur notre vie spirituelle? Mettons de côté les a priori que nous avons peut-être à propos de ces publications et lisons quelques-uns de ces ouvrages et voyons ce qu'ils nous apprennent sur leur auteur. Eh bien, ainsi s'achève ce dimanche, 1er février. Poursuivons cette étude sur l'harmonie, justement, en harmonie avec la Bible. Ce sera la journée du lundi 2 février 2009. Et voici le premier texte qui nous est proposé. Quel est l'un des critères les plus déterminants pour vérifier l'authenticité d'un prophète? Et ce texte se trouve dans le prophète Ésaïe, le chapitre 8 et le verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La loi, ou la Torah en hébreu, est le terme biblique courant désignant les écrits inspirés de Moïse. Le témoignage, lui, fait référence aux déclarations des prophètes. Ce que dit un prophète doit être en accord avec ce que Dieu a déjà révélé. Et si, d'après lui, d'autres prophètes apportent des éléments complémentaires concernant le plan du salut, ils ne doivent pas non plus être en contradiction avec ce que Dieu a déclaré auparavant. C'est le caractère immuable de Dieu qui est en jeu dans ses révélations aux êtres humains. On trouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 28, un exemple de cette façon de tester l'authenticité d'un prophète. Jérémie avait prophétisé qu'Israël servirait le roi de Babylone pendant 70 ans. C'est au chapitre 25 et au verset 11 du prophète Ésaïe. Au début de ces 70 années, Anania, fils d'Azur, en a décidé autrement. Dans la maison du Seigneur, sous les yeux des prêtres et de tout le peuple, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone, encore 2 années, et je ramène en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur. Et je ramène en ce lieu, déclaration du Seigneur, tous les exilés de Juda qui sont allés à Babylone. Jérémie 28, 1 à 4. Parce que cette déclaration ne correspondait pas avec ce qu'il avait précédemment dit à Jérémie, Dieu a donné un nouveau message. « Écoute, je te prie, Anania, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu incites ce peuple à mettre sa confiance dans un mensonge. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, tu mourras cette année, car tu as appelé à la subversion contre le Seigneur. » Le prophète Anania mourut cette année-là, au 7e mois. Nous trouvons ceci toujours dans le chapitre 28e du prophète Jérémie, les versets 15 à 17. Tout prophète authentique se réfère aux prophètes qui l'ont précédé pour authentifier son ministère. Il en a été de même pour Ellen White. Ceux qui connaissent bien ses livres peuvent témoigner qu'elle a abondamment fait appel aux Écritures. Elle se plongeait profondément dans la lecture de la Bible et s'y référait constamment. C'est pourquoi ce qu'elle écrivait était en accord avec la parole de Dieu. Elle n'était certes pas théologienne et ses commentaires sur la Bible ne sont pas ceux d'un exégète, mais son message est en harmonie avec le message des Écritures. Et voici en conclusion de ce lundi la question, quelques questions à méditer, quelques lignes à méditer. Pourquoi tout ce qui est d'ordre moral, spirituel ou théologique doit-il être en harmonie avec la Bible? Le plus grand critère d'authenticité. Pourquoi devons-nous nous référer à une autorité ultime, notamment dans les domaines spirituels et théologiques? Ainsi s'achève cette journée du lundi. Mardi 3 février. Cette journée s'intitule « Prophétie accomplie ». Nous allons lire dans le prophète Jérémie, chapitre 18, et nous verrons quels principes importants nous trouvons concernant l'accomplissement des prophéties. Donc Jérémie, chapitre 18, les versets 5 à 10. « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Oracle de l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire, et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » L'authenticité d'un prophète est en partie liée à l'accomplissement de ses prophéties. Cependant, il arrive qu'une prophétie ne se réalise pas si les personnes impliquées témoignent d'un profond changement. Il s'agit alors de ce qu'on appelle une prophétie conditionnelle, une notion qu'il est important de comprendre. Et en pensant à l'expérience de Jonas, de quoi doit-on tenir compte quand on met à l'épreuve l'authenticité d'une prophétie? L'accomplissement de la plupart des prophéties, à l'exception des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sur la fin des temps, donc cet accomplissement dépend des actes et des comportements des personnes concernées. Jonas a annoncé de façon claire que 40 jours plus tard, selon les instructions données par Dieu, Ninive serait détruite. Jonas, chapitre 3, verset 4. Ce n'est pourtant pas arrivé. Jonas était-il un faux prophète? Certainement pas. Mais la prophétie était conditionnelle. Sa réalisation dépendait de la façon dont le peuple réagirait au message divin. Ce principe explique peut-être pourquoi une prophétie particulière faite par Ellen White en 1856 ne s'est pas réalisée. Dans celle-ci, elle déclarait « On me montra les personnes présentes à la conférence. L'ange me dit, certaines deviendront de la nourriture pour les vers de terre, d'autres subiront les 7 dernières plaies, d'autres encore seront vivantes et demeureront sur terre pour être translatées au retour de Jésus. » Or, toutes ces personnes sont bien sûr décédées depuis. Comment l'expliquer? Il s'agissait en fait d'une prophétie conditionnelle. N'oublions pas que l'ange avait dit à Ellen White que le royaume de Dieu aurait pu arriver de son temps. En 1896, elle écrivait « Si ceux qui prétendaient vivre pleinement en Dieu avaient fait l'œuvre que le Seigneur leur avait confiée, le monde entier aurait déjà été averti et Jésus serait revenu avec puissance et une grande gloire. » Dans le dernier volume de son ouvrage « Témoignage pour l'Église », publié en 1909, elle écrivait « Si tous les soldats du Christ avaient fait leur travail, si toutes les sentinelles postées sur les murs de Sion avaient fait résonner leurs trompettes d'une certaine manière, le monde aurait déjà entendu le message d'avertissement. Mais cette œuvre a pris des années de retard. Tandis que les hommes dormaient, Satan a pris de l'avance. » Si nous appliquons le principe de la prophétie conditionnelle à la vision qu'Ellen White a eue en 1856, il n'y a donc plus de problème. Et voici, c'était la journée du mardi 3 février. Continuons cette semaine d'études avec le mercredi 4 février 2009. Et là, le titre de cette journée est le suivant. Confessez Jésus, Dieu fait homme. Et lisons à quel problème Jean a été confronté durant son ministère. Nous allons lire dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 4, et nous lirons les deux premiers versets. 1 Jean 4, 1 et 2. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. À l'époque de Jean, question de la nature humaine du Christ posait problème. Était-il réellement fait de chair et de sang, ou, comme l'enseignaient certains, avait-il seulement eu l'apparence d'un homme? Comprendre et confesser que Jésus avait été véritablement homme revêtait pour Jean une telle importance qu'il en a fait le critère de tout vrai prophète. En fait, il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est devenu homme, mais également d'admettre tout ce que la Bible enseigne sur lui. Si Jésus s'est fait homme, c'est dans un but précis, pour vivre une vie sans péché, puis mourir pour l'humanité pécheresse. Bien plus encore, il s'est fait homme pour pouvoir, après sa résurrection et son ascension, exercer en notre faveur un ministère dans le sanctuaire céleste. Notre grand prêtre est capable de nous comprendre, de compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été tenté, comme nous, en toutes choses. Et c'est ce que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 4, les versets 14 et 15. Tout prophète authentique guidera les hommes vers Jésus. Dieu fait homme, sauveur et modèle de l'humanité tout entière. C'est à cela qu'Ellen White a consacré sa vie. Elle écrivait « Jésus-Christ est tout pour nous, le premier, le dernier, le meilleur en toutes choses. Jésus-Christ, son esprit, son caractère, déteignent sur tout. Ils sont la chaîne et la trame qui constituent le tissu de notre être tout entier. » Le Christ est un sauveur vivant. En continuant à regarder à Jésus, on finit par réfléchir son image d'une manière visible pour tous. Un extrait du livre « Message à la jeunesse ». Et disons pourquoi il est nécessaire que les vrais prophètes exaltent Jésus. Et nous trouvons ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 et le verset 12. « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » L'esprit œcuménique et la pensée postmoderne se sont infiltrés dans presque toutes les églises chrétiennes actuelles et ils sapent progressivement tout ce qui fait le caractère unique du christianisme, notamment l'importance de Jésus-Christ en tant que sauveur du monde. Ellen White, au contraire, écrivait ceci. « L'humanité déchue n'a qu'une seule espérance, regarder à Jésus et le recevoir comme son unique sauveur. Seule la vérité et la religion biblique traverseront victorieusement l'épreuve du jugement. » Encore un autre extrait de ses écrits. « Exaltons Jésus, sauveur de l'humanité. Parlez de son amour, évoquez sa puissance. » Voilà, c'était la journée du mercredi 4 février. Jeudi 5 février, pour lequel nous avons un titre général de cette journée et qui est « À bon arbre, bon fruit ». Voyons dans le sermon sur la montagne ce que déclare Jésus concernant la façon d'identifier les vrais prophètes. Et là, nous allons lire quelques versets également que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 17 à 20. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cette déclaration a pour contexte la mise en garde que Jésus fait aux disciples contre les faux prophètes. Jésus applique le principe « à bon arbre, bon fruit ». Il applique ce principe à la vie des prophètes. Quels fruits produisent-ils et quelle influence leurs enseignements exercent-ils? C'est un test qui demande du temps. Ellen White a vécu et travaillé pendant 70 ans, sous les regards critiques de millions de personnes, la plupart du temps sceptiques et méfiants, ou parfois carrément hostiles. Ses opposants ont toujours signalé, non sans satisfaction, et ils continuent de le faire, ils ont signalé ses erreurs, ses fautes et ses incohérences. Or, Dieu seul est sans défaut. Ses messagers ne le sont jamais. Voyons maintenant ce que nous apprennent quelques textes sur les défauts de caractère de certains de ceux qui possédaient le don de prophétie. Alors, nous avons un premier texte que nous trouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 12, les versets 12 et 13. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est ma femme ». Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. C'était Abraham qui parlait ainsi. Nous avons un autre texte, nous le trouvons dans le livre de Jonas, chapitre 1er, les trois premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Encore un texte que nous trouvons dans le livre des Actes, chapitre 15, versets 36 à 40. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Et un autre texte pour cette journée qui se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 11 et 12. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on est infaillible ou qu'on ne pêche pas. Ellen White faisait des erreurs et avait des défauts comme tout un chacun. Mais sa vie dans l'ensemble a été telle qu'à sa mort, une revue locale, non adventiste, a fait cette déclaration. La vie de Madame White est un exemple digne d'être imité par tous. Elle a été un disciple du Christ, humble et dévoué, cherchant constamment à faire le bien. Sa mort souligne la vocation d'un nouveau géant de la pensée religieuse, dont la vie, pendant presque 90 ans, a été remplie de bonnes actions, de paroles de bonté et de prières sincères pour l'humanité tout entière. C'est un journal qui s'intitule le Saint Helena Star, qui est apparu en Californie en 1915. Certaines personnes ont du mal à accepter son ministère prophétique parce qu'elles trébuchent sur certains détails de ses écrits et elles passent à côté de l'essentiel. La façon dont Dieu l'a appelée à créer l'Église, la quantité de révélations étonnantes qu'elle a reçues de Dieu et tout ce qu'elle a apporté à l'Église. Et voici de quoi réfléchir maintenant. La présence parmi nous du don de prophétie ne constitue-t-elle pas un privilège, mais peut-être aussi un défi? Eh bien, réfléchissons à cela pour terminer cette journée du jeudi 5 février. Et nous arrivons à la fin de cette semaine avec le vendredi 6 février 2009. Et là, nous aurons quelques citations à vous proposer, bien sûr tirées des ouvrages d'Ellen White et principalement du livre « Messages choisis ». Quand le sujet m'a été présenté, la période consacrée au ministère du Christ paraissait presque achevée. Puis-je être accusé de mensonge si le temps a duré plus longtemps que mon témoignage ne le laissait supposer? Qu'en est-il du témoignage rendu par le Christ et par ses disciples? Se sont-ils trompés? L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. » Dans son épître aux Romains, continue Ellen White, le même apôtre dit « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Dans les messages qu'ils adressent aux hommes, les anges représentent le temps comme très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que le temps a duré plus longtemps que nous ne l'avions pensé au début de ce message. Notre Sauveur n'est pas apparu aussitôt que nous l'avions espéré. La parole du Seigneur a-t-elle failli? Jamais. Il faut se rappeler que les promesses et les messages divins sont conditionnels. Et voici quelques lignes à méditer. Pourquoi certains adventistes du septième jour ont-ils perdu confiance dans le ministère prophétique d'Ellen White? Une partie du problème aurait-elle à voir avec la façon dont son œuvre a été présentée? Certaines personnes se servent des écrits d'Ellen White comme d'une autorité décisive en toute chose. Quel est le danger d'une telle attitude pour notre Église? De quelle façon a-t-on fait, et fait-on encore, un usage abusif de ce don magnifique dans l'Église? Bien, voici quelques questions qui sont vraiment très importantes pour terminer cette semaine. Nous donnons donc rendez-vous à nos amis auditeurs à la semaine prochaine. À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.